Bonjour et bienvenue à la rencontre avec la grande dame de la science-fiction canadienne, Elisabeth von Harbour, qui est à côté de moi. Et c'est pas seulement que tout le monde dit qu'elle est la grande dame de la science-fiction, c'est le milieu de science-fiction lui-même qui le dit. C'est un titre.
Ouais, mais franchement, je préfère même pas trouver ça sur ma tombe. Hein. Si j'ai la grande dame de... Ah, non.
Oui, surtout, oui, ça fait un peu première. Alors, Elisabeth von Harbour, c'est un déluge de prix et de distinctions. C'est des magnifiques romans qui ont vraiment changé la face de la science-fiction. Donc, ça va être l'occasion de l'interroger sur des tas de choses, les hommes, les femmes, etc.
Et le reste.
Et le reste. Et qui sait, peut-être sur la procréation en science-fiction.
Ok, en science-fiction, ça va, je suis correcte, parce que pour le reste, c'est un peu tard. Hein.
Alors, je commence peut-être complètement de travers avant même de te demander quel est ton parcours, mais il semble que tu fais un post-doc sur la procréation en science-fiction.
Ah oui, j'avais besoin de fric, et alors, à ce moment-là, j'ai été chargée de cours pendant une dizaine d'années à temps plein à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et bon, là, à ce moment-là, les charges de cours sont devenues rares. Je dis, bon, ben, je vais faire un doctorat pour être un doctorant chômeur, comme tout le monde. Et j'ai bénéficié d'un trou où on pouvait faire son doctorat en création littéraire sur son œuvre déjà publiée, et j'avais un roman déjà publié, qui était Le silence de la cité. Youpi! J'ai donc fait mon doctorat entre 86 et 87 sur un Apple IIe. C'était mon premier ordinateur. Alors, ça faisait, la version finale faisait 5000 pages. Ma directrice littéraire, très gentille, ma directrice de thèse m'a dit très gentille, elle a tout lu. Et ensuite, elle m'a dit, bon, maintenant, tu m'en fais 500 pages. Alors maintenant, les gens qui me disent, mon éditeur n'est plus là, c'est dommage, les gens qui me disent, t'es pas capable de couper, je les tue. Alors j'ai fait mon sens. Alors après, j'avais encore besoin de fric, parce que c'est bien payé, un doctorat, j'avais eu des bourses. Pendant 3 ans, j'avais eu 30 000 dollars par mois, par an, ce qui était le pactole. J'ai pris d'ailleurs de très mauvaises habitudes de dépenses à ce moment-là. Et pour essayer de les conserver, je me dis, bon, ben, je vais faire un post-doc. Sauf qu'un postdoc, c'est quand même plus sérieux. Mais le sujet de la reproduction dans l'espace m'intéressait parce que c'était pas seulement dans l'espace physique, avec les problèmes qu'on sait, mais aussi dans l'espace social, enfin, et pas seulement la reproduction, évidemment, au sens physique, mais la reproduction des chaînes, la reproduction des mèmes, la reproduction. Et là, au début, il fallait établir une bibliographie. Bon, moi, les bibliographies, c'est pas mon truc. J'ai commencé la vie. Maintenant, ce serait plus facile, il y en a des bibliographies. Il y a plein de jeunes filles qui sont devenues des jeunes femmes et qui ont fait leur doctorat et leur post-doctorat et qui ont fait des bibliographies sur les œuvres de femmes. Moi, c'était la reproduction chez les auteurs féminins comparée avec les auteurs masculins. Bon. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Alors j'ai commencé la bibliographie, j'ai dit ok, je ne serai jamais une post-doctorante et je suis retournée écrire des affaires parce que. Alors je ne suis pas une post-doctorante. Et la reproduction m'intéresse, mais au niveau le plus général du terme, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer à toujours refaire la même chose ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de nouveau? Parce qu'enfin, la science-fiction, on vous dit, la science-fiction, c'est la littérature du novum, du nouveau. Ok, est-ce qu'on fait vraiment quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau dans la science-fiction? Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que chaque fois que je crois que j'ai inventé quelque chose, je me rends compte que ça a déjà été fait, pas par d'autres auteurs nécessairement, hein, mais dans le monde, ça existe. L'expérience que j'ai faite le plus souvent dans mon écriture, c'est que tout d'un coup, le monde, l'univers, carrément, se met à obéir à mes caprices.
Wow.
Quand j'ai écrit Tyrannaël, le cycle de Tyrannaël, qui n'est pas un cycle pour jeunes, comme le dit la présentation dans le programme, c'est quelque chose que j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ou 16 ans. Et je lisais de la science-fiction depuis un an, j'ai fait un rêve extraordinaire qui m'a totalement traumatisée, qui tenait en une ligne dans mon carnet de l'époque, je tenais un journal, et qui a donné cette monstruosité de 5 volumes 34 ans plus tard. Bon, mais j'avais nourri cette histoire de mes fantasmes, de mes désirs, de « ok, j'avais pas assez de temps pour lire, il me fallait des journées de 35 heures, ok, c'était une planète où il y avait 35 heures, j'avais pas envie de faire des séparations entre l'organique, et, entre le minéral, le végétal et les animaux, donc il y avait des animaux qui étaient intelligents, il y avait des plantes qui devenaient intelligentes à un moment donné, qui redevenaient des plantes, enfin c'était le fantasme total, et c'était un monde très fantasy en fait au départ, il y avait même des licornes. » Sauf que ce n'était pas des vrais licornes, mais il y avait des licornes, il y avait des unicornes. Bon. Et ça, je serais toujours reconnaissante à Gérard Klein qui m'a dit « Oh, moi, vous savez, la fantaisie, j'aime pas ça. » J'ai dit « Mais ce n'est pas la fantaisie. » Oui, il dit « Il y a des licornes. » Et je me suis donc donné beaucoup de mal pour que mes licornes ne soient pas des licornes de fantaisie. Merci Gérard. Donc, quand est venu le temps d'écrire ce truc-là, pour de vrai, quand j'ai eu 50 ans, j'ai décidé que oui, bon, il était temps de vider mes tiroirs. Et puis en plus, mon éditeur me demandait, t'aurais pas quelque chose là? On en parle depuis 15 ans dans le milieu de la science-fiction québécoise. Ce Tiranael, c'est l'arlésienne de la science-fiction québécoise. J'ai dit, bon là, il va falloir faire sérieux, c'est de la science-fiction. Alors je me suis procuré une encyclopédie sur pattes, qui a été mon guide, et ma pierre de touche, et mon relanceur, parce qu'il me faisait rebondir tout le temps. Un scientifique absolument hallucinant, que c'était plus facile de lui demander ce qu'il ne savait pas. Et alors je me suis dit, bon, tout va passer à la trappe, comme on dit chez nous, tout va prendre le bord, comme on dit chez nous, tout va disparaître, des plantes qui se transforment en oiseaux, qui redeviennent des plantes, des licornes qui ne sont pas vraiment des licornes, qui ne sont pas descendues des chevaux du tout, des arbres qui vivent très longtemps et qui sont conscients, mais très très lents parce qu'ils ne vivent pas dans le même temps. Non, non, tout ça, ça va disparaître. Et Normand, puisqu'il s'appelle Normand, m'a tout justifié, absolument tout. Et tout d'un coup, le monde d'en haut, l'univers objectivement, scientifiquement plausible, disons, correspondait à mes fantasmes les plus anciens et les plus secrets. Ça a été une expérience pratiquement mystique. Hein. Et ça continue à l'être. Chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je cherche une ville sur la carte où mon personnage doit vivre et je tombe sur une ville qui a exactement le nom qu'il faut, qui a exactement l'histoire qu'il faut, qui a les monuments qu'il faut. Wow, je ne l'ai pas fait exprès. C'est qui, là ? Et donc l'idée de la science-fiction comme nouveauté, la science-fiction qui s'alimente aux mamelles de la science, des sciences, oui, elle, oui, et c'est heureusement la porte toujours ouverte sur le renouvellement des motifs de la science-fiction, Dieu merci, la science-fiction, c'est très important, mais je n'écris pas une science-fiction technologico-galopante. Je suis une autodidacte, je me suis appris un certain nombre de choses, et j'ai surtout des tas de copains qui sont des scientifiques et qui sont ravis. On leur demande, si vous êtes aspirant écrivain et que vous avez des renseignements à demander, n'hésitez pas. Les spécialistes sont toujours ravis de parler de leur spécialité. Hein?
Ouais.
Alors, ça a été vraiment l'expérience de vraiment, est-ce qu'on peut faire du nouveau? Et c'est toujours une question pour moi dans la science-fiction. Là. Parce que même les nouveautés de la science-fiction, bon, les clones sont arrivés, maintenant le post-humain...
Les zombies.
Non, pas les zombies. Là, je ne suis pas zombie du tout. Mais... quel est le rôle de la science-fiction, hein? Le rôle de la science-fiction, c'est d'incarner les nouveautés que nous présentent les sciences, l'univers ou la société où nous vivons, de les incarner, de les faire vivre, de les transformer en fiction, et ainsi de les apprivoiser jusqu'à un certain point, de nous les rendre plus proches. Ce ne sont pas des articles de revues scientifiques secs et abstraits, non. Ça nous prend à la fois l'intellect et les émotions. Et c'est précieux. Mais à ce niveau-là, c'est là qu'est toujours le danger de la reproduction. Parce qu'il faut quelque chose de familier pour le lecteur. J'imagine toujours le lecteur... Tu ne vas pas en placer une.
Non, c'est pas rien.
J'imagine toujours le lecteur de science-fiction comme accroché à une branche au bord d'un abîme. Mais il faut... L'abîme, c'est les nouveautés, enfin, les réflexions qu'on lui propose. Mais il faut qu'il se raccroche à quelque chose de familier. Et là, c'est l'ambivalence et l'ambiguïté et la difficulté du travail de l'écrivain, finalement. Allez, bah,
Donc je vais parler de Tiranael, j'ai très envie de parler de Tiranael, effectivement les journées de 35 heures, les gens qui font la méridienne, ah, comme je les envie, c'est-à-dire qu'ils dorment 3 heures par jour, parce que 35 heures c'est trop dur pour l'organisme.
6 heures par jour.
6 heures, avant j'ai
dormi. Oui, non, 3. C'est vraiment...
Ah, je croyais qu'ils dormaient...
Les rythmes biologiques humains ne sont pas faits pour des journées de 35 heures, il faut vraiment qu'ils fassent une longue pause au milieu de la journée.
Ah oui, j'ai cru que c'était une pause de 3 heures seulement.
Non.
J'ai mal lu, ben voilà, comme quoi, hein, une lectrice pas attentive. Et alors c'est vrai que c'est drôle ce que tu dis sur le rapport à la science et sur le côté nouveau. Je suis étonnée que tu aies eu affaire à des scientifiques, parce que ce qui est extraordinaire dans cette science-fiction de Tiranael, c'est que justement, il y a un rapport à la science qui est extrêmement original. C'est-à-dire, oui, le fait qu'une ancienne civilisation possédait toute une technologie, alors même qu'il n'y a pas, pour des raisons narratives, il n'y a pas d'électricité à certaines périodes de l'année, et qu'avec du gaz et des ballons et avec toutes sortes de systèmes, les gens ont réussi à avoir un niveau de technologie tellement haut qu'on leur dénie. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé cet aspect-là, c'est-à-dire que les descendants ne peuvent pas imaginer que les anciens avaient un tel niveau technologique. C'est au commencement étaient les imbéciles, hein, pour le dire vite.
Oui, mais ça, c'est à travers extrêmement répandu. Nos ancêtres étaient stupides. Ben non, sinon, on ne serait pas là.
Oui. C'est écrit quelque part, d'ailleurs, à la fin dans le tome 5. Je ne vais pas retrouver comme ça, hein, c'est quand même difficile de trouver. C'est pas parce que c'est préhistorique que c'est idiot. Les imbéciles et la préhistoire, c'est pas forcément idiot.
Et même, on pourrait se demander jusqu'à quel point les êtres humains, des commencements, n'étaient pas plus astucieux que nous. Parce que quand même, ils ont inventé le feu. Ils ont inventé le feu, ils ont inventé la cuisine, ils ont inventé la médecine. Moi, je me demande toujours comment, diantre, ben, je sais, c'est sur des millénaires, mais quand même, ils ont inventé la métallurgie. Wow, en tout cas. Ne parlons pas que de Tiranaël,
oui,
mais de quelques petits trucs de plus.
Oui, on ne va pas parler que de Tiranaël, car comme le rappelle Elisabeth elle-même, elle a fait quelques petits trucs de plus. Alors, on pourrait parler de Chronique du Pays des Mers, que l'éditeur français prétend en rupture de stock, et il semblerait que ce soit absolument faux.
Totalement faux.
Bon, c'est peut-être pas l'aspect principal de
le distributeur. Les libraires sont. Certains libraires, pas tous, il y en a des extraordinaires, mais certains libraires sont un petit peu paresseux. Ils vont vous dire je le trouve pas bon, allez sur rupture de stock. Non, on est distribué en France, il suffit d'assister.
Voilà, donc Chronique du Pays des Mers, c'est, j'ai envie de dire, un bréviaire du féminisme. Est-ce que tu es d'accord avec cette. Définition l'emporte-pièce.
Oh là là, c'est comme Grande Dame de la science-fiction, là, je sens mon cercueil proche.
Ça sent le satin. Non, mais
et puis alors, je voudrais rectifier quand même, parce que il y a plein de gens, il y a plein de lecteurs et de lectrices qui ont lu ce bouquin sans jamais avoir lu les bouquins qui, moi, m'ont fait le coup du bréviaire de machin, chose, truc chouette, qui étaient Suzy McKee-Charnas, qui étaient Pamela Sargent. Ils ont été. Au moins, Sargent a été traduite en français. Charnas, on a traduit le premier volume, mais c'était trop dur. On n'a pas traduit le reste. Mais c'était sa trilogie sa trilogie des femmes, machin, là. C'était, d'ailleurs, c'est devenu une tétralogie. C'était quelque chose à l'époque, c'était dans les années 70, mais c'était absolument gigantesque. C'était le coup de poing dans la gueule. J'espère que le mien n'est pas un coup de poing dans la gueule, parce que c'est un petit peu dur à digérer. Mais, je veux dire, ce livre-là n'existe pas dans le vide. C'est une nouvelle génération de féministes qui est arrivée. Je suis arrivée avec toute la génération qui avait lu Le Guin. Et on a toutes produit des livres qui peuvent être considérés d'une façon ou d'une autre comme des bréviaires du féminisme. Alors, en science-fiction, on n'exagère rien.
C'est un peu l'emporte-pied, effectivement.
Oui,
c'est ça.
Je ne voudrais pas qu'on exagère l'importance de ce bouquin, même si moi je l'aime bien. Mais,
Alors, c'est vrai, on peut dire que Delany le fait à la fin des Contes de Neverdale quand. Sarah décide de. Le texte a été écrit par une personne qui appartient à un certain genre, donc elle n'a aucun indice pour savoir quel est ce genre, alors elle décide, ma foi, que ce sera le genre féminin. Donc, ça, il y a quelque chose un peu comme ça. C'est ce qui frappe peut-être le plus, c'est ce que les lectrices retiennent le plus, du coup, on est obligé de féminiser. C'est que c'est un monde où on ne parle qu'au féminin. Et même les garçons sont désignés par des articles, des modules grammaticaux, je peux te faire un nom en linguistique, enfin des objets grammaticaux féminins. Et d'un seul coup, on se rend compte, et ça c'est pour moi la force de la science-fiction, que effectivement, on dit « il », quand on est par exemple toutes les deux et un chien, on dira « il ».
Et en plus, c'est super récent, ça date du XVIe siècle, cette connerie. Avant ça, vous pouviez avoir des chiens, des orang-outans, des lamas et des femmes. Eh bien, c'était au bout du jour, c'était des femmes, ou c'était des masculins ou des féminins. Et tout d'un coup, il y a un espèce de machin qui venait sans doute d'une académie quelconque. Le XVIe siècle était une période où on a défendu et illustré la langue française, mais c'était quand même les hommes qui étaient au pouvoir du discours à cette époque-là, tout de même. On a décidé que le masculin devait l'emporter sur le féminin, parce que c'est l'ordre naturel des choses. Ça fait seulement 4 siècles et demi, il ne faut quand même pas s'énerver trop tôt. Hein, c'est...
D'autant plus qu'il y a un livre d'Eliane Guignot qui vient de paraître, non, le masculin ne remporte pas sur le féminin, où elle montre que c'est encore pire parce que tu dis, c'est pas l'ordre des choses, c'est carrément parce que l'homme est supérieur.
C'est dit
textos. Hein. Et donc c'est tout ces grammairiens. Là, il y a vraiment une remise en cause.
Aucune science n'est. gender blind, aucune science n'est aveugle au genre.
Alors ça nous amène du coup par ce détour fort astucieux à ta période que je qualifierais française, c'est-à-dire ce que je voulais faire au début, que tu me relates un peu, disons, comment as-tu traversé la mer avec un grand M pour aller de l'autre côté de l'océan ?
Oh, par le plus grand des hasards, j'étais à l'époque mariée à quelqu'un qui venait de terminer sa maîtrise en physique et qui devait faire son service militaire, un service militaire obligatoire à l'époque, dont c'était la préhistoire. C'était après 68, moi j'avais pas mal, j'ai été éveillée à la politique, pas au féminisme, mais à la politique en 68. Et la France de 1973, vous trouvez que la France d'aujourd'hui est peut-être pas très drôle, mais alors celle de 73 pour les 68 ans, c'était vraiment la cata. Alors on voulait s'en aller, il ne voulait pas faire son service militaire en France, il ne voulait pas aller le faire dans une usine nucléaire non plus, donc on est parti, on a demandé l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Parce qu'on avait des copains qui en venaient, ou qui en étaient, ou qui y étaient. Et à 15 jours de partir, on ne savait toujours pas où on allait, on téléphone, on dit « Ah, vous alliez à Chibouti !» C'est où ça, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc ? Ah ben non, c'est au Québec. La première réaction de mon mari a été « Ah bon, ben, on va pouvoir apprendre l'anglais. » Chibouti est dans une région où on parle à 99,99% français, mais on ne le savait pas. Moi, j'étais plus raisonnable, je dis « Ah ben, on va pouvoir faire du ski. » Moi, j'ai eu raison. Alors, c'est par le plus grand des hasards qu'on s'est retrouvés là, mais... On voulait partir. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas, enfin, j'ai du mal à croire au hasard. Je me suis retrouvée dans un pays où je me sens davantage chez moi qu'en France. Je me considère, ben, quand je suis en France, je me considère comme québécoise. Quand je suis au Québec, on me rappelle que je suis française, mais en fait, je suis toujours entre les deux. Et j'aime assez cette position d'entre les deux, parce que ça me permet de jeter un regard très science-fictionnel sur la réalité où je vis, d'un côté ou de l'autre, de la grande mare, parce que la science-fiction jette un regard en biais sur la réalité, n'est-ce pas ? Donc, moi aussi. Et ça, finalement, les hybrides, c'est théoriquement les plus solides. Donc, voilà. Et je suis restée là-bas parce que nous y sommes restés tous les deux, d'ailleurs, ensemble et puis ensuite séparément, parce qu'on aimait le pays, on aimait l'hiver. Moi, j'aimais l'hiver, je suis tombée en amour avec l'hiver. Le premier hiver, c'était ah, oui, je suis chez moi. Ensuite, j'ai pu avoir des chats, ce que je ne pouvais pas avoir en France. Et surtout, je me suis rendu compte rétrospectivement que il y avait des héritages lourds en France. Il y a des héritages lourds en France, que ce soit collectivement ou individuellement. Moi, famille, du point de vue de la famille, je trouvais les héritages un peu lourds. Du point de vue de la collectivité, je trouvais les héritages un peu lourds. La première fois qu'on est retourné en France, c'était 2 ans après être. On est resté 2 ans sans bouger. Après, on est retourné dans la famille de mon mari. Et je me rappelle, je regardais les champs et les bois de chaque côté de la voie ferrée qui nous menait dans le Jura. Et je me disais, mon Dieu, ces machins-là existent depuis au moins 5000 ans. Il n'y a pas un brin d'herbe qui n'ait pas été cultivé au moins une fois. Et je me sentais totalement écrasée. J'ai tout fait, littéralement. Alors que ben, le Nouveau Monde, c'est encore le Nouveau Monde. Bien sûr, c'est le fantasme du Nouveau Monde. Je ne vis pas dans le Québec des Québécois. Je vis dans mon Québec fantasmé, malgré tout, après 41 ans encore. Mais il y a de l'espace, il y a un rapport à la nature qui est complètement différent et c'est de ça que j'avais besoin. Moi, la nature en Europe est trop, ben, elle est en train de se re-ensauvager un petit peu. Je trouve que c'est extraordinairement reboisé depuis plusieurs années, mais bon. Mais la nature a été beaucoup dominée, alors qu'au Canada, on ne peut pas s'imaginer qu'on domine la nature. Il suffit d'être pogné, pris dans une tempête de neige et là, on se calme. Hein. L'homme dominateur est non. Pas vraiment, non. Alors ça, j'ai beaucoup aimé et je continue à aimer cette impression que l'être humain au Canada, je dirais pas aux États-Unis, parce que si on regarde la conurbation de la côte Est, c'est sûr que bon. Mais l'être humain au Canada me paraît plus à sa place, à sa juste place dans la nature, dans son environnement, que ne l'est l'Européen moyen dans son environnement. C'est peut-être encore un fantasme.
Pour eux, certainement pas. Mais je me rappelle avoir demandé au Canada où était Algonquin Park. Ah ouais. Comme j'aurais demandé, j'ai vu les gens qui m'ont regardé comme ça, Algonquin Park fait 4 fois ou 5 fois la France. Ouais. Comme j'aurais demandé le parc d'acclimatation. C'était ouais, aucune.
Entre Chicoutimi où je vis et Québec, la ville la plus proche, qui est la capitale officielle provinciale, il y a ce qu'on appelle le parc, avec une majuscule, qui est grand comme la Suisse. Moins torturé quand même. Mais il n'y a rien, quoi. Il y a une station, service et restaurant au milieu. Et puis 100 km de chaque côté, il n'y a rien. Il y a des petites cabanes de pêche, il y a des villages de pêche, mais il fut un temps où il n'y avait pas de route dans ce parc. La route date d'il y a à peu près 80 ans. Donc la région où je vis est la dernière à avoir été colonisée. Je suis presque dans Fenimore Cooper, quoi.
Oui, un peu de ça. Et alors malgré tout, moi je suis continuée, j'avais jamais entendu parler avant, et un jour, c'est par toi que j'ai entendu parler pour la première fois de Chicoutimi, ouais. Et c'était associé, hein, ouais. Elisabeth Bonnardo de Chicoutimi. Et tu as développé des tas de relations professionnelles, je veux dire, sur un plan de la réflexion, sur un plan de l'université, avec la France, Chicoutimi, il y a eu plein de colloques, non, de science-fiction.
Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai organisé le premier colloque, le premier congrès de science-fiction québécois en 79, parce que j'étais allée à des congrès de science-fiction en France, à Angoulême, à machin, en 74, voilà. Je me suis dit, on pourrait faire ça aussi, nous, puisque j'ai participé à la naissance de la science-fiction québécoise, qui, moderne, qui ne commence véritablement qu'en 74, par là. Donc en 79, ça faisait pas mal de temps qu'on était là, qu'on pensait changer le nom de la revue de Requiem à Solaris, il y avait des auteurs qui commençaient à être assez professionnels, on commençait même à avoir une maison d'édition qui voulait publier du genre, et qui savait ce qu'elle faisait, qui était, le préambule, dont le directeur littéraire était Norbert Stenner, et Norbert Stenner était celui qui avait donc publié la revue Requiem, qui allait devenir Solaris. Et moi, je m'étais dit, mais les congrès sont une occasion extraordinaire de mettre tout ce monde ensemble, de remuer et de voir si ça détonne, enfin, s'il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est ce que je voyais dans les congrès français. Et donc, on a fait ce premier congrès, qui a tout de suite été ce qu'on appelle en anglais « a circum », c'est-à-dire « a serious convention ». Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas du fun, qu'on ne s'amusait pas comme des dingues et qu'on ne se déguisait pas, mais on ne s'est jamais pris au sérieux nous-mêmes, ce qui nous différencie peut-être un peu de certains congrès américains et, je dois le dire, de certains congrès français. Mais on prenait la science-fiction, la fantasy, le fantastique et la littérature de genre très au sérieux. Et c'est pour ça que, bon, étant un petit peu universitaire sur les bords quand même, doctoré, agrégé et tout utile, j'ai aussi organisé des colloques où je faisais venir effectivement des gens. J'ai essayé très longtemps d'établir des liens entre la francophonie française et la francophonie québécoise en invitant des Français. Ils sont venus, l'ascenseur a été relativement peu retourné, mais peu importe. Les liens étaient établis.
Pauvreté des facs français.
Oui, c'est vrai. J'ai essayé de faire la même chose avec le milieu anglophone, mais au bout d'une dizaine d'années, je me suis découragée.
Ça a eu son importance, hein, parce que c'est vrai que ça t'a fait connaître en France.
J'ai essayé de faire connaître la science-fiction québécoise. C'était l'ensemble du milieu qu'on essayait de promouvoir.
Oui, ça a très bien marché. Et du coup aussi, il y a eu tout un mouvement de réflexion sur les littératures de genre qui ont pris, alors, on va dire, là encore une expression très maladroite, leur lettre de noblesse. Ce que tu dis, serious convention, enfin le côté sérieux.
Je crois qu'on a eu des groupes de recherche consacrés aux recherches sur les littératures dites populaires, parce qu'il faut une étiquette, hein, qui fasse bien l'indécor, plutôt au Canada. Aussi bien au Canada anglais que français d'ailleurs, mais peut-être plus plutôt au Québec, dans les années 70 et début des années 80, plutôt qu'en France, je penserais.
Oui, d'autant plus qu'en France, c'était. Moi j'ai toujours vu avec la science-fiction quelque chose de bizarre du point de vue du graphisme. Alors, je ne dis pas forcément que le graphisme est extraordinaire.
On ne parlera pas des couvertures, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte.
Oui, mais même surtout. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont beaucoup moins stigmatisantes que les couvertures françaises de SF, où il y avait des femmes nues, enfin il y avait quand même eu une époque à la mi-temps, d'un point de vue graphisme, qui vraiment plaçait la science-fiction dans un sous-genre. Je veux dire que je me demande si en France, c'est vraiment une question, on n'a pas une espèce d'obsession des genres et des sous-genres que je ne vois pas aussi. Enfin, je trouve que c'est plus.
Il ne faudrait pas idéaliser trop quand même. Les genres, les sous-genres, les étiquettes et les machins, c'est surtout commercial.
Oui,
c'est un c'est bon. Et puis, non seulement commercial, mais c'est universitaire, parce que les universitaires aussi ont besoin d'étiqueter, pour des raisons justement de recherche, de rationalité et de publier ou périr. Donc il leur faut des étiquettes qui soient clairement reconnaissables, de la même façon que les libraires ont besoin de catégories commerciales reconnaissables pour pouvoir vendre des bouquins. Si on mettait tous les bouquins de genre ensemble mêlés, je suis sûre qu'il s'en aurait beaucoup moins.
Mais malgré tout, il y a quelque chose aussi d'idéologique hein, dans la volonté de faire une couverture.
Le graphisme bah, stigmatisante.
J'exagère.
On essaie de récupérer le public qu'on imagine être le public d'un genre donné. Si on imagine que ce sont des adolescents boutonneux, on va leur mettre des courbes appétissantes. Si on s'imagine que maintenant, aujourd'hui, que ce sont des geeks, on va leur mettre des machins par ordinateur, genre Matrix. Ça, c'est partout.
Oui. Parce qu'on dit toujours que c'est un principe de base. Hein. Alors, dans tes romans, on n'a pas encore parlé de tout.
J'écris aussi des nouvelles, juste comme ça pour dire.
Oui, c'est vrai que j'ai commencé à parler. Alors, si on parlait de tes nouvelles, qu'est-ce pour toi que la nouvelle?
Un petit roman? Non, c'était le reproche que me faisaient mes collègues. Oh, écoute, tu fais une nouvelle avec ça, moi je fais un roman. Et j'étais toujours. Non, moi un roman c'est vraiment plus compliqué qu'une nouvelle. Mais effectivement, j'écris des nouvelles longues j'ai longtemps écrit des nouvelles longues. La moyenne, c'est 25-30 pages, et quelquefois plus. Et effectivement, la complexité entrecroisée des personnages, des décors et de l'intrigue donne une impression plus peut-être romanesque que novelière. Quand je me suis mise à écrire des textes courts, c'est-à-dire en dessous de 18 pages, et j'ai réussi à descendre à 5 pages, et j'ai même réussi à descendre à 1 page, quand j'écris de la poésie, j'écris des haïkus. Je tends vers les haïkus. Mais il y a vraiment des distances de narration différentes. Il y a des intensités d'immersion fantasmatiques différentes. Donc la nouvelle, c'est vraiment autre chose. Ça a l'air d'une tautologie. Bon, une nouvelle, c'est pas un roman. Oui, ben, c'est ça. Je pourrais pas vraiment l'expliquer plus savamment.
Oui, tu es en train de nous dire que la nouvelle c'est une question de longueur, mais je crois que c'est pas ça.
Non, c'est vraiment une question de nombre de couches de sens. Dans mes nouvelles, en général, il y a quand même plusieurs couches de sens, mais il y en a moins que dans les romans. Voilà.
Oui, parce que
le millefeuille est moins épais.
Donc, si on revient sur. Je suis obligée de revenir sur Tyrannaël, t'as peut-être assez de parler de Tyrannaël.
Non, bah vas-y, écoute, c'est toi l'entrevueuse.
Non, c'est moi l'intervieweuse, donc je reviens sur Tyrannaël, mais parce qu'il a été qualifié de littérature de jeunesse hein, dans le titre, et on a bondi, même si il semblerait que tu aies eu un lecteur fort jeune qui a dévoré.
J'écris pour des bons lecteurs. Enfin, on me demande quelquefois pour quel genre de lecteur vous écrivez. Ma première réponse très longtemps a été le réflexe j'écris pas pour des lecteurs. Et si tous les auteurs étaient honnêtes, il dirait la même chose. On écrit d'abord pour soi. On écrit d'abord parce qu'il y a quelque chose qui veut être dit, qui veut se dire, et qu'on voit qui s'écrit. Et ça nous parle à nous. Nous sommes notre premier lecteur. C'est juste ça que ça veut dire. Mais à mesure qu'on vieillit et qu'on rencontre des lecteurs, on commence à dire, oui, ok, tiens, voilà, j'ai ce type-là de lecteur. Et là, il faut assumer. J'écris pour des bons lecteurs, c'est-à-dire des lecteurs qui n'ont pas peur de travailler dans le texte, des lecteurs qui font confiance à l'auteur pour... Qui suivent l'auteur, qui se disent « Ok, je comprends pas tout de suite, mais elle va finir par m'expliquer ce que j'essaie de faire en général. » Bon, c'est pas tous les lecteurs qui fonctionnent comme ça, et c'est leur droit le plus imprescriptible, selon Daniel Pennac, et je suis tout à fait d'accord. Le droit de l'auteur étant d'écrire ce qu'il a besoin d'écrire, et de décider à un moment donné que non, il n'écrit pas pour tous les lecteurs. Bon, il y en a qui sont géniaux, qui arrivent à le faire, je ne suis pas géniale. C'est tout. Mais j'ai effectivement des lecteurs quelquefois très jeunes et j'ai été très surprise parce que j'ai eu des lecteurs qui ont lu, qui sont passés à travers Tyrannaël les 5 volumes comme dans du beurre, et à côté de ça des lecteurs de 50 ans qui sont arrivés en me disant mais tu sais, c'est difficile à lire. Ah bon? Et quand je leur demandais de m'expliquer, moi j'aime bien qu'on me dise j'ai pas aimé. Parce qu'on me dit, si on me dit pourquoi, c'est très très instructif, je peux m'améliorer. Alors que si je suis géniale du premier coup, quel intérêt. L'absurde du premier cul. Et donc, ces lecteurs-là me disaient, bah, écoute, c'est pas chronologique. Ah bon? Parce que Tyrannaël est extrêmement chronologique, sauf qu'effectivement, c'est des niveaux de chronologie différents. Il y a des chronologies au siècle, il y a des chronologies à l'année. Et effectivement, mais le premier volume est totalement chronologique, sauf qu'on saute d'un... d'un personnage à l'autre quand on saute, et d'une intrigue à l'autre quand on saute d'une période de la colonisation à l'autre. Le premier était vraiment conçu comme un roman par nouvelle. C'est comme ça que j'ai commencé, pour pas trop me faire peur quand j'avais 16 ans. Bon, et c'est devenu un roman. Quand on arrive au troisième volume, là c'est un seul personnage, une seule intrigue, et ça continue comme ça. Mais les deux premiers, effectivement, se lisent comme des nouvelles, et de plus en plus chronologiques serrées. Mais le premier est chronologique lâche. Et il y a des lecteurs que ça a beaucoup dérangé, je comprends.
Oui, c'est une sorte de grande fresque chronologique, effectivement, et spatiale, hein, également, un jeu sur le double espace des deux îles, qui sont liées entre elles.
Oui, il y a deux planètes.
Deux.
Pourquoi faire plus simple quand on peut faire plus compliqué? Moi, quand j'ai commencé à imaginer cet univers-là, ça a tout de suite été la fresque. Donc je suis fondamentalement une romancière. Mais il fallait que je la découpe en petits morceaux pour pouvoir l'écrire, parce que sinon je n'aurais jamais pu. Et donc, il y a deux planètes, il y a deux temporalités différentes, et effectivement, évidemment, à un moment donné, elles se rencontrent, il faut bien, parce que comme on disait dans les tables rondes sur les intelligences cosmiques, etc., c'est vrai que si l'univers n'est pas peuplé, d'un point de vue fictionnel, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si l'autre existe en tant que petit microbe, mais si les virus peuvent parler.
Hein, c'est ça. Oui, on veut bien être colonisé par le virus à condition qu'il nous parle.
Oui, qu'il nous cause.
C'est un peu ça l'idée. Alors, dans tes romans, la présence des hommes fait question, peut faire question.
Des êtres humains, tu veux
dire ? Non, je parlais des hommes aussi.
Ah, des hommes avec un Z, là, d'accord.
Des hommes avec un Z. Hein. Parce que, bon, tout de suite, tout le monde se dit, ah oui, écriture, moi, je ne qualifierais ça absolument pas d'écriture féminine, ni même féministe. Hein.
De toute façon, je ne sais pas, contrairement à ma collègue Joëlle Trebert, qui a l'air d'être certaine que l'écriture n'a pas de sexe, c'est son droit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais totalement pas. Je me suis trompée d'une façon traumatisante, une fois, avec James Tiptree Jr., j'espère que ce nom évoque quelque chose dans certains d'entre vous. C'était le seul écrivain des années 70 que j'arrivais à lire, que je trouvais habitable, supportable, et en moi, il y en avait un qui était supportable, jusqu'au moment où j'ai appris qu'une femme était James Tiptree Jr. C'est la formulation de Sula Le Guin, qui est tout à fait différente de « James Tiptree Jr. est une femme ». Pensez-y juste une seconde. Une femme est James Tiptree Jr. Et là, je suis allée relire tout ce que j'avais de James Tiptree Jr. Et tout d'un coup, mon Dieu, c'était évident que c'était une femme. Non.
C'était d'autant moins évident.
Non, c'était totalement pas évident. Je ne le savais pas, je ne l'avais pas vu. Et à partir de ce moment-là, me dire qu'il y a... Y a-tu une écriture masculine? Y a-tu une écriture féminine? Je le sais-tu, moi? Non, je ne le sais pas. Personnellement, je ne suis pas. Pendant une dizaine d'années, j'ai essayé, par des études très universitaires, de comparaison de textes sur des mêmes motifs entre des auteurs francophones, anglophones, masculins et féminins de la même période, sur des mêmes thèmes, de déterminer s'il y avait quelque chose de plus masculin, de plus féminin. Mais il faudrait un échantillonnage tellement plus vaste que ça n'avait pas d'allure. Je comparais quoi, 6 masculins, 6 féminins, mais ce n'était pas assez. Alors, avec très peu d'échantillonnage, oui, il y a des tendances. Plus ceci, plus cela, sur certaines images, si on prend l'image du vaisseau spatial, ok, il y a des vaisseaux spécifiquement phalliques, et il y en a d'autres qui sont plus ovulaires, mais bon, il y a des hommes qui écrivent des vaisseaux qui sont des boules. Alors quoi? Oui, alors c'est peut-être des autres sortes de boules. Mais bon, je n'ai pas de réponse à cette question. J'admire ceux et celles qui ont des certitudes dans un sens ou dans l'autre, mais moi, je n'en ai pas. Le féminisme, pour moi, est et restera une question. J'ai très très peur des réponses, parce qu'en général, elles vous enferment dans des boîtes, et je déteste les boîtes. Alors donc, si mon écriture est féminine, je ne veux pas le savoir.
À moins qu'il y ait des boîtes de reproduction, comme certaines, Elisa. Une question complètement idiote. Elisa, est-ce que tu as pensé à My Fair Lady et tout ça?
Non, alors je vais te faire une réponse idiote.
C'est la question idiote.
J'avais pas, je ne m'étais absolument pas rendu compte que Elisa, c'était Elisabeth. Ne croyez pas, hein? Eh bien si. Il a fallu qu'un étudiant, 10 ans après, me dise « Alors oui, Elisa, c'est vous ?»« Non. » Oui, »« Bah, elle s'appelle Elisa, vous appelez Elisabeth. » »« Oui. » Et alors, si vous lisez le bouquin, vous vous rendrez compte, le silence de la cité, vous vous rendrez compte qu'il y a des raisons totalement rationnelles ou objectives pour que ce personnage s'appelle Elisa, parce qu'au moment où elle est créée, son créateur, père scientifique, voit des trucs, des signes sur des éprouvettes dans son, ou des outils scientifiques dans son labo. Alors ça ressemble à un E, à un L et à un I. Ellie. Et bon, ok, tu as Ellie. Elisa, ça sera bien. Et je ne m'en étais pas rendu compte. Comme quoi, alors moi qui suis pour les écrivains, ce sont des gens conscients. Ça prend du temps pour devenir conscient. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, subconsciemment, il y avait quelque chose qui était au travail. Parce que là, à ce moment-là, quand cet étudiant m'a posé la question, je me suis rendu compte que les trois premières lettres de mon nom, Élie, c'est Dieu. Élie, c'est là-bas, ça m'a créé. Pourquoi m'as-tu abandonné?
Non, non, je ne sais pas. Abandonné. Discrètement de la mer au début.
Ouais,
alors la métaphore de la mer semblait.
Ah oui, non pas la mer, mais la démiurge, moi ça ne me dérange pas.
La démiurge de son œuvre. Donc effectivement, moi j'ai même pas vu ça. Moi quand j'ai vu Elisa, je me suis dit, mais c'est évident, c'est Elisa de My Fair Lady.
Oh non.
Elisa qui est la Pygmalionée, enfin,
ouais.
Parce que dans le roman, son père scientifique, enfin son père entre guillemets, la Pygmalion, véritablement, il a forme à tous les niveaux, y compris en finissant par accepter.
Ouais, il faut qu'elle le tue pour s'en débarrasser.
Et elle finit par devoir
le tuer. Les Freudiens sont tellement contents.
Elle finit par devoir le tuer, etc. Je me rappelle une chose à propos de cette église. Elle change de sexe à un moment.
Ah oui, elle change un peu de sexe sur les bords. Hein. C'était la première de mes métamorphes et c'est une de mes grandes métaphores, enfin, un de mes grands thèmes. Là, c'est l'idée qu'on puisse changer, pas seulement de sexe d'ailleurs, mais de forme. Parce qu'on l'a dit quelquefois, Norman Skinrad a essayé de le dire, malheureusement son français n'est pas à la hauteur de ses idées. J'espère qu'il n'est pas là. Non, mais il avait des choses très intéressantes à dire. C'est que la communication dépend du sensorium du corps. Nous ne communiquons pas avec les sourds muets communiquent entre eux d'une façon qui nous est souvent inintelligible. Nous ne communiquons pas avec une espèce insectoïde qui se machine les antennes et les papates de la même façon que nous communiquons entre nous. Donc le corps est très important dans la communication et aussi dans la compréhension de l'autre. Quand on vous dit « Ah bah tu devrais marcher 5 km dans les chaussures », tu te rendrais compte que... Voilà. Bon. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas souffrir à la place de l'autre. Nous ne pouvons pas mourir à la place de l'autre. Bah oui, on peut. Enfin, on ne peut pas lui prendre sa mort et lui dire « Bon, tiens, tu vis et moi, je vais mourir, je vais souffrir ta passion à ta place. » Non, on ne peut pas. Alors qu'avec le motif de la métamorphose, on peut devenir, dans mon système, on peut devenir un animal, n'importe lequel, du moment qu'un certain nombre de conservations, matière, énergie, enfin, un gobbledygook quelconque scientifique, un blabla scientifique quelconque, est respecté. Mais ça permet aussi, donc, d'élargir la question, c'est quoi être humain? Parce que c'est la question fondamentale de la science-fiction. C'est quoi être humain? C'est même pas qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme, ça c'est la question corollaire. Mais être humain, c'est quoi? Ben je sais pas non plus. Et donc j'explore avec le métamorphe, j'explore avec le motif des artefacts, qui sont des créations artificielles des humains qui deviennent autonomes. Le motif de Pygmalion, justement, je l'ai repris délibérément avec un sculpteur qui crée une artefact et qui son assistant ne comprend pas pourquoi il la laisse partir, mais il dit je l'ai créée pour qu'elle s'en aille. Mes parents m'ont fait la même chose, je veux dire que c'est la plus belle chose qu'ils m'ont faite. Ils m'ont élevée de manière à ce que je les quitte. Je les ai quittés avec beaucoup de culpabilité, mais je les ai quittés. Et il me semble que c'est absolument essentiel dans la relation parent-enfant qui est un autre de mes motifs.
Oui, c'est un motif important. La relation parent-enfant, elle joue énormément dans tes romans.
Oui, c'est la relation de pouvoir, la première relation de pouvoir dont on fait l'expérience. Avant même la relation de pouvoir homme-femme, dans notre société, on a quelque chose de beaucoup plus biologique au départ. C'est la relation de pouvoir entre le parent ou les parents et l'enfant. Et il me semble que c'est sur cette cellule familiale, restreinte ou étendue, qu'est fondée tout le reste de la dynamique du pouvoir tel qu'on la vit. De plus en plus large, tu veux, le milieu, la société, la culture, la nation, le monde, elle est là, la première. Donc, ça me permet de parler du pouvoir là où ça nous touche le plus dans les tripes, je dirais.
Et du coup, dès lors, les petites filles élevées en groupe, sans parents, effectivement, ça prend une dimension
ça, c'était
à la fois familière et cruelle.
Ouais, ça me venait des kibbutz un peu. J'ai failli aller vivre dans un kibbutz, j'avais 16 ans, mais bon. Il y a eu la guerre de 7 jours ou quelque chose, et j'ai pas oublié. Mais ça, voilà, c'est un motif. C'est un motif qui n'est pas du tout personnel. J'ai trouvé ça. C'est traité par d'autres écrivains féminins, même moi, dans d'autres œuvres chez les anglophones, chez les anglo-saxons. il y a la nécessité de se couper des enfants dans une chronique du PNMR parce qu'il y a beaucoup de mortalité. Et j'avais lu quelque part un article justement sur des sociétés où, dans des pays où justement la mortalité infantile est très élevée et où les parents ne s'attachent pas, délibérément pas, aux enfants avant qu'ils aient un certain âge. Et au Moyen-Âge, et dans notre propre culture, c'est le cas, jusqu'à encore très récemment relativement, hein, mais encore au XVIIIe siècle, encore au XIXe siècle, qui c'est qui me rappelait qu'il y avait 8 enfants sur 10 qui mouraient avant l'âge de 10 ans. Alors s'attacher à ces enfants-là, c'était la détresse, le traumatisme garanti à vie, hein. Donc j'ai repris ce truc-là. Le fait que les enfants soient élevés en groupe, c'est que j'ai été interne au collège pendant un an, ça m'a traumatisé. C'était un pensionnat de filles, évidemment.
Alors on est en train de lever tous les mystères de ta biographie.
Mon VQQ est très chargé.
Le fameux VQQ est très chargé, de tout à l'heure. Alors tout à l'heure, on parlait de la question sur l'écriture féminine. Alors, je me rends compte que c'est une question un peu bête.
Non, c'est juste une question. Je ne peux pas apporter de réponse.
Non, mais cette histoire d'Alice Sheldon, effectivement, Silverberg l'avait qualifiée d'écriture la plus masculine qu'il ait jamais vue. Et il ne savait pas que c'était Alice Sheldon qui se dissimulait derrière James Tiptree Junior. Je crois que c'est Junior qui l'a
planté. Mais c'était une erreur légitime. On lit ce qu'on s'attend à lire. Faites l'exercice et les professeurs de littérature le font couramment. Si ma collègue Sylvie Vera était quelque part dans le coin, elle pourrait le dire. Il suffit de faire lire un texte en mettant un nom masculin ou un nom féminin et vous demandez ensuite aux étudiants qui lisent lequel ils ont préféré, lequel est le meilleur. Statistiquement, ça va être le texte masculin, sauf s'il y a plus de filles que de gars, et même dans la classe, et même pas forcément dans ce cas-là. Ou bien encore, vous faites lire des textes sans nom d'auteur, et vous demandez c'est masculin ou c'est féminin. Eh bien, les gens se gourrent régulièrement, parce qu'ils ont des idées préconçues de ce que c'est un homme, un style masculin, un imaginaire masculin, et une femme, idem. Faites l'expérience sur vous-même, vous verrez, c'est très illuminant.
Ça t'a bloqué en science-fiction, enfin je veux dire, le plafond de verre science-fictionnel, t'as senti ça dans ta carrière ou pas du tout? Enfin, quelque chose qui aurait été bloquant du point de vue de la, non pas de l'écriture, hein, mais du point de vue de la capacité, de la facilité.
Si j'ai été bloqué quelque part, je suis très naïve, je m'en suis pas rendu compte.
Bloqué,
non, je m'en suis pas rendu compte. Tu veux dire parce que j'ai été victime de discrimination parce que j'étais une femme qui écrivait la science-fiction?
Oui. C'est ça. Surtout que tu tiens beaucoup à la science, en fait. Je constate dans ton discours.
Oui, j'y tiens beaucoup. Je ne joue pas. Il y a plusieurs façons de jouer à la science-fiction. On joue avec, comme au tennis, on peut jouer avec le filet très haut, très tendu, c'est très difficile, et ça, c'est la science-fiction dure. Et ça, je ne suis pas vraiment capable. Parce que j'aime bien en lire, je trouve ça fascinant, mais je trouve ça plombant aussi, donc je ne suis pas capable. C'est pas ce que j'aime lire. Il y a le filet mou. Où il n'y a plus de filet pratiquement, où on peut jouer très facilement et ça devient la science fantasy, tous ces machins très, très cute, d'ailleurs très mignon, très, très agréable à lire, mais bon, c'est autre chose. Et moi, j'aime jouer avec le filet mi-tendu. Je suis une femme du milieu. C'est-à-dire qu'il faut, s'il y a de la science, s'il y a des éléments scientifiques dans mes histoires, je préfère qu'ils soient plausibles. Pas forcément vrais, là, mais plausibles. Ce qui n'est pas du tout la même chose. S'ils peuvent être vrais en plus, c'est le pied. Mais bon, donc c'est important, et surtout parce que la science, les sciences, les connaissances, et c'est un concept beaucoup plus vaste que science, les connaissances sont un élément, comme je disais, de renouvellement constant de l'imaginaire des écrivains de science-fiction. Et ça, c'est absolument indispensable. Si on se coupe de là, on vient de perdre, on vient de se condamner au radotage éternel. C'est triste. C'est science-fiction qui radote, c'est une horreur.
Je ne sais pas trop ce que tu entends par art de science-fiction, tu veux dire des trucs vraiment très durs.
Très scientifique, où vraiment on ne se permet pas d'hypothèses qui dépassent les connaissances scientifiques du moment. Alors le problème, c'est que ces textes-là, pour les gens qui savent les faire, c'est très le fun à écrire, mais ils se démodent très très vite. C'est seulement si ce sont de bonnes histoires qu'ils gardent, ils deviennent une espèce d'histoire parallèle, dans un univers parallèle, la science s'est arrêtée là. Mais si l'histoire est bonne, l'histoire reste. Il y en a beaucoup comme ça, heureusement. Il y en a d'autres qui se démodent énormément. C'est dommage. Mais c'est essentiel. La hard science fiction, c'est le noyau dur de la science-fiction. Il faut qu'il reste.
Ah oui, moi j'aurais plutôt dit que c'était la politique, le noyau dur de la science-fiction. Non, c'est personnel. C'est une lecture personnelle.
Pas pour toi. Non, pas pour moi. C'est un noyau, mais c'est un noyau secondaire.
Donc ton noyau, c'est la science.
Ça, c'est la réflexion. La réflexion sociologico-politique et économique, c'est essentiel aussi. Mais ce qui amène véritablement le renouvellement, parce qu'il y a beaucoup de, cycles dans la politique, l'économie et les machins, enfin, ben non plus, on n'invente pas forcément grand-chose. Alors que la science, il y a toujours le truc qui vous fait dire « Oh, waouh, quelque chose de nouveau. » C'est merveilleux. Merveilleux scientifique.
Émerveillé par les sciences. Alors, vous avez sans doute quelques questions à poser à Elisabeth. Dites Elisa, dites Elie. Je vais vous passer le micro. Si vous commencez.
Non, personne.
Si personne veut commencer,
non, je commence. On peut aller boire.
On peut aller boire, mais pas tout de suite. On va pas boire tout de suite. Bon, alors, la question la plus bête qu'on puisse poser, je crois qu'il faut que je la pose. Quels sont tes projets? Tu t'y attendais pas.
Catherine, t'avais pas. Non.
Si, je vais demander à Catherine.
Eh bien, moi qui viens de défendre la science-fiction avec tant d'enthousiasme, je suis censée être en train d'écrire une trilogie de fantasy uchronique, d'après mon éditeur, et je suis un petit peu de son avis, dès qu'il y a uchronie, il y a science-fiction. Et d'un autre côté, comme il y a de la magie si institutionnalisée et rationalisée soit-elle dans cet univers-là aussi, ok, c'est de la fantasy, mais j'assume. Et de toute façon, du point de vue de l'écriture, j'en ai écrit déjà 5, c'est la trilogie de l'âme de mémoire. Non, c'est pas une trilogie, il y en a 5. La série de l'âme de mémoire qui se passe dans le même univers, c'est la psychologie.
On va parler de cette psychologie.
Ça se passe dans le même univers. Ou pour vous donner une idée un petit peu du truc, Jésus a eu une sœur jumelle qui. Alors lui, il est mort sur la croix, ils ont tiré ça au dé. Il est mort sur la croix et elle a fondé la religion géminite, la religion des Gémeaux, qui n'est pas la religion chrétienne. Et les chrétiens sont une secte à la nuque raide qui a fait un schisme dans les années 800 ou 900 et qui sont totalement anti-magie parce que l'autre élément par où cet univers diverge du nôtre, c'est que la magie y existe depuis toujours et qu'elle est fonctionnelle. Elle est institutionnalisée, les Romains avaient la magie, les Grecs avaient la magie romaine. Et sauf que cette magie-là est un petit peu en perte de vitesse et une nouvelle magie arrive avec les Gémeaux. La magie est cyclique dans cet univers-là, elle est comme la lune. Elle croit, elle décroît, une nouvelle magie vient, et bon. Mais elle garde des principes fondamentaux qui sont les mêmes. Et donc, cette psychologie se déroule au 16e, 17e et 18e siècle, jusqu'à la fin du 18e siècle. On y visite 3 continents, plusieurs cultures. Il a fallu que je réinvente toutes les cultures du livre, toutes les religions du livre. Ça a été très amusant. Et là, je revisite cet univers-là, mais 500 ans plus tôt. Et très curieusement, tout est différent. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avant le XVIe siècle, entre le XIIIe et le XVIe siècle, qui ont totalement modifié les cultures et la religion de cet univers, les religions de cet univers. Alors, c'est assez amusant. Ça me permet de parler justement de l'influence des religions sur la vision qu'on a du monde, de soi, des autres, des femmes, des hommes, du couple, de la parentitude, du sexe, du cul, de l'amour, de l'honneur. En plus, c'est une sombre histoire de romantique, de cap et d'épée, avec des frères ennemis, un amour très chevaleresque, très, très romanesque au sens roman courtois. Donc, c'est les histoires que je me racontais quand j'étais petite, et là aussi, un peu comme Tiranaï, je me dis, bon, maintenant que j'approche de 70 ans, c'est peut-être temps que je mette cette chose-là à la poubelle, une bonne fois pour toutes. Alors, écrivons l'histoire romantique. Alors, c'est une histoire romantique sur 3 volumes. Sauf que ça va être du Von Arbour, alors le romantisme va pas y prendre beaucoup de place. Pour moi, ce sera romantique. Alors, ça, c'est mon projet, celui qui me talonne. Maintenant, j'ai d'autres histoires que j'espère pouvoir écrire avant que les petits cochons ne me mangent. Il y a un troisième volume dans la non-série qui comprend Chronique du Pays des Mers et Le Silence de la Cité. Ça s'appelle Le Pays des Tigres et ça se passe entièrement dans les Mots-Terres, c'est-à-dire l'endroit où finit Chronique du Pays des Mers à peu près. Alors ça, celle-là, il y a une autre histoire. Il y a une histoire de planète géante où on ne vit que sur le Terminator. Vous allez me dire ça a été fait et je vous dirai oui mais pas par moi et donc je la ferai sans vergogne si j'ai le temps et puis il y a quelques histoires aussi, quelques nouvelles et là je pense que je serai arrivée au bout et je pourrai aller me coucher dans ma tombe en ayant le sentiment de voir con.
Est-ce qu'il y a des deuxièmes chances de poser des questions sinon j'en poserai encore une dernière.
personnel.
Ouais.
Pour moi, ce qui me frappe dans tes romans, c'est le côté femme duplice. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux choses qui se passent en même temps. Et c'est-à-dire que tu remets en cause finalement, c'est difficile à expliquer. On a, comme tu disais, on a toutes et tous des histoires lourdes, hein, je ne sais pas, les 14, etc. Enfin, l'histoire.
Ouais, les héritages.
Oui, les héritages. Et toi, tu recrées des héritages que les gens portent. Les héros portent ces héritages, mais sauf que ça n'a aucun rapport sur cette création totale d'univers dans ses moindres détails, que ce soit les arbres, les fleurs, etc. C'est presque comme les auteurs de jeux de rôle, quoi, une création d'univers extrêmement précise.
Les inventeurs de jeux de rôle se sont inspirés de bouquins.
Oui, je sais, mais pas toujours. Toujours est-il que cette précision d'univers comme ça, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a toujours deux univers parallèles, enfin très souvent, c'est-à-dire
deux ou trois.
C'est-à-dire, est-ce que tu théorises ça ou est-ce que c'est un effet de...
Le motif des univers parallèles est un de mes thèmes dans mes nouvelles, beaucoup. Et dans le roman Voyageurs malgré eux, les voyageurs malgré eux. Voilà des... Dans les années 70, j'ai imaginé des voyageurs qui bénéficient d'une espèce de machine qui les emmène jusqu'au zéro absolu. Et à partir de là, par un procédé totalement oxymoronique, l'union des contraires, à ce moment-là, la matière jaillit et les emporte dans un autre univers. Et alors là, ils sont perdus, ils n'arrivent pas à retourner chez eux, mais enfin bon. Et je me suis rendu compte que c'est un motif très prégnant dans mon imaginaire, parce que j'ai une conscience aiguë de l'arbre des possibles. Les choix qu'on fait et qui sont déterminants. À plusieurs, de nombreuses fois dans mon existence, j'ai été placée devant des choix où j'ai eu conscience, ça c'est plus rare, d'avoir un choix. D'habitude c'est rétrospectif. Mais à plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 fois, j'ai eu un choix. Et j'ai donc choisi en conscience de cause. Et ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée, je pense. D'autant plus que je crois qu'on se crée ces choix. Ce n'est pas des choix qui nous sont donnés par hasard, totalement, enfin bon. Et donc, j'ai conscience des univers parallèles. Je sais qu'il y a un autre univers, je n'ai jamais quitté la France, où je suis restée titulaire de mon poste dans le secondaire, où j'ai peut-être même eu des enfants, et je n'ai jamais écrit un mot. Et je serai morte. J'ai peut-être pas eu d'enfant, mais je serai morte. Peut-être pas physiquement, mais je commence à... Des fois, je me dis que oui, physiquement, j'aurais pas tenu le coup. J'ai enseigné pendant 1 an au secondaire, avant de partir pour le Québec. Et au bout de l'année, je n'avais pas écrit. Et j'étais en dépression nerveuse. Et j'aimais les gamins et j'aimais enseigner. Mais j'étais en dépression nerveuse parce que c'était l'un ou c'était l'autre.
Autrement dit, on n'a jamais le choix, c'est le choix.
Ça, ce choix-là s'est imposé parce qu'on est parti. Mais le fait qu'on soit parti n'était pas innocent non plus, quoi. Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités. Et ce qui me fascine dans la science-fiction, c'est justement cette possibilité d'explorer les possibilités.
Oui. Hein?
Et le thème des univers parallèles est le motif idéal. Et l'idée qu'on peut se rencontrer ou ne pas se rencontrer, et qu'on est quelqu'un d'autre, avec lequel on ne s'entendrait peut-être absolument pas, quelqu'un qui a fait complètement des autres choix. Et tout ça, moi, ça me fascine. Et c'est un des motifs qui est le plus passerelle, avez-vous remarqué, avec la littérature normale et le cinéma. C'est celui qui est le plus facilement assimilable par le spectateur ou le lecteur, en fait. Cette idée qu'il y a des parallèles où on n'est pas forcément ce qu'on est ici et maintenant. Et ça nous apprend quelque chose sur nous.
Et on traîne une histoire différente.
Enfin, on traîne une histoire différente, mais on traîne quand même une histoire, voilà.
Oui, mais du coup, ça relativise les discours historiques. Sont très sensibles à ça, personnellement. Le fait qu'on relativise un discours historique qu'on fait traîner, c'est que quand l'héroïne dit « Oh, tu me parles encore de l'année 153, quand... » comme si c'était la vieille lune, ça, c'est-à-dire,
si vous fréquentiez les milieux des écrivains qui écrivent des uchronies, des vraies uchronies de science-fiction, là, qui sont généralement des historiens enragés et extrêmement maniaques, vous rendrez compte que la notion de l'histoire qu'on a couramment, quand on en a une, elle est totalement fausse, que l'histoire est inévitable. Non, l'histoire tient quelquefois à des trucs totalement débiles. Le gars s'est levé du pied gauche le matin, il s'est cassé la figure dans le caniveau en sortant. Il a eu une rage de lance ce jour-là. Et la face du monde a été changée par la longueur du nez de Cléopâtre. Pascal n'avait pas tort. Donc c'est ça, c'est que l'histoire est quelque chose de beaucoup plus labile, de beaucoup plus fluent, de beaucoup plus plastique. On veut bien le croire. Nous avons besoin de croire que le passé existe tel qu'on nous le raconte, mais c'est pas vrai. Votre propre passé, moi je réinvente constamment mon passé, et quelquefois mon passé revient me dire, mais c'était pas vraiment ça du tout. Je retrouve des gens qui me racontent des trucs que je raconte autrement. Je dis, t'es sûr? Oui, j'étais là. Ah oui, mais il me semble que moi aussi j'étais là, mais j'en ai pas du tout le même souvenir. Ah bon. Donc si vous voulez, le passé n'est pas quelque chose de si fixe que ça. Le futur ne l'est pas non plus, et le présent lui-même ne se sent pas très bien. Alors bon.
Alors donc vous faites de la science-fiction.
Vous faites de la science-fiction, vraiment.
Il n'y a pas de questions, toujours pas.
Allons
bon,
voir.
Bah, écoutez, nous allons remercier Elisabeth Bonnancourt, et je vous remercie.
Et on va boire.
Bravo, bravo.